affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons évoquer une exposition de sculptures que seuls de très rares auditeurs francophones ont pu voir. Et pour cause, cette exposition, baptisée « Héritage immortel », se tenait cet été en Chine, au fameux NAMOC, le National Art Museum of China, autrement dit le Musée National d'Art de Chine. Et comme le nom de l'exposition le laisse pressentir, elle présentait les œuvres de 5 artistes membres de l'Académie des Beaux-Arts. En l'espèce, Claude Abeille, Jean Anguera, Jean Cardot, Antoine Poncet et Brigitte Terzieff. Ils y étaient invités par Wu Weishan, lui-même sculpteur très honoré dans son pays et directeur du NAMOC. Nous avons souhaité évoquer cette exposition car elle représentait en Chine un véritable événement. Mais aussi parce que pour ceux des artistes qui ont fait le déplacement, cette exposition était une véritable expérience. Une expérience parce qu'un voyage comporte toujours son lot de rencontres, de surprises et d'étonnements. Il ne faut en effet pas se leurrer, la mondialisation ne rime pas nécessairement avec l'uniformisation. Voilà pourquoi l'émission que nous vous proposons aujourd'hui sera une sorte de carnet d'impressions, de carnet d'étonnements rapporté de Chine par deux grands artistes français, Jean Anguera et Claude Abeille, qui ont fait le déplacement et nous font la gentillesse d'être présents parmi nous. Ils sont accompagnés aujourd'hui de Didier Bernheim, également membre de l'Académie des Beaux-Arts, président de la Maison des Artistes, et qui les accompagnait. Didier Bernheim me fait un grand nom avec le doigt et l'index pointé.
Il y a une quinzaine d'années que je ne suis plus président de la Maison des Artistes.
Vous étiez président de la Maison des Artistes et désormais vous organisez des expositions en Chine, c'est très bien. Ouais. Messieurs, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être peut-on commencer par évoquer la genèse de cette exposition. Après tout, ce n'est pas du tout banal que 5 artistes français fassent l'objet d'une exposition dédiée aujourd'hui en Chine. Comment tout cela s'est-il goupillé, si j'ose dire ? Qui veut répondre à cette question, Didier Bernheim ou Monsieur oui. Abeille, alors, qui a des contacts
oui,
loin.
Alors comment les choses ont commencé ? Je crois qu'il y a eu deux événements. Évidemment, les Chinois ont voulu commémorer l'anniversaire de ce que le général de Gaulle avait fait en reconnaissant le gouvernement chinois à l'époque. Et puis également le perpétuel de l'Académie, c'est-à-dire Arnaud d'Autrive à ce moment-là, avait déjà fait un voyage en Chine avec l'architecte Dublena. Et ce voyage n'avait pas apporté au départ beaucoup de résultats. Et moi-même, quand je suis devenu président de l'Académie, j'ai pensé aller plus loin. Et c'est donc qu'on a fait un voyage. J'ai fait un voyage avec d'autres à l'Académie et j'ai rencontré à ce moment-là M. Yang Xiaoyang qui dirige l'Académie de peinture de Chine. Et nous avons décidé à ce moment-là de faire des choses ensemble, faire comme un voyage ensemble. Et voilà, je crois que c'est parti de là, en même temps qu'une exposition de Jean Cardot qui s'est faite au musée national de Pékin, et dont peut-être notre ami peut dire un mot, notre ami Didier Bernheim.
Oui, parce que là, vous nous avez parlé de l'archéologie du projet, les premiers contacts qui se sont établis.
Oui, alors j'ai été amené à organiser l'exposition de Jean Cardot au Musée National, non pas au NAMOC, mais au Musée National de Chine, en 2014. Ce qui a été une expérience passionnante et en même temps redoutable parce que on a exposé 82 sculptures, dont De Gaulle et Churchill grandeur nature, c'est-à-dire 3,70 m, sur un espace de plus de 2000 m². Donc c'est une, au point de vue de l'organisation, c'était une expérience, surtout en Chine, tout à fait nouvelle pour moi, mais où j'ai beaucoup appris et qui m'a permis d'organiser les deux expositions suivantes, celle des peintres de l'Académie et celle des sculpteurs de l'Académie dernièrement.
Vous disiez une expérience éprouvante, pourquoi ?
Éprouvante d'abord parce que le rythme de travail des Chinois est... est impressionnant. Ils n'ont pas du tout la même notion du temps que nous, et donc tout se décide plus ou moins à la dernière minute. Il y a des changements. Pour vous donner un exemple, pour l'exposition Cardo, fin 2013, on m'a dit que ça sera au mois de novembre. Et puis, au début de l'année 2014, on m'a dit non, ça sera plutôt en octobre. Et au mois de juin, on m'a dit que ça sera fin août. Avec, vous imaginez, les questions de transport, de douane, que cela suppose de résoudre. Donc, il faut s'adapter. Voilà.
Oui, parce que là, les délais n'étaient pas repoussés, ils se rapprochaient. Beaucoup moins confortable.
Tout à fait. Si vous voulez, une exposition comme ça, de cette importance, en France, ça se prévoit 2 ans à l'avance. Là-bas, vous voyez, en quelques mois, et on finit par quelques semaines.
Alors, pour l'exposition qui nous intéresse aujourd'hui, quel en est le point de départ ? On a vu les prémices, mais...
Alors, le point de départ, c'est d'abord l'exposition des peintres et graveurs de l'Académie, qui a eu lieu en 2016, au Namok, à l'initiative de Wei Shan, le directeur du Namok, qui est également membre correspondant de notre Académie. Et quand on a fait cette exposition, on a dit, après les peintres, il va falloir faire les sculpteurs. Et donc, voilà, la genèse de l'exposition des sculpteurs, c'est les peintres et les graveurs.
Peut-être faut-il présenter la personnalité de Wu Weishan, parce que elle a un certain relief et elle nous éclairera sur l'importance de l'exposition.
Très important. Alors, c'est un grand sculpteur. J'ai vu récemment le monument qu'il a fait pour... commémorer le massacre de Nankin, c'est vraiment tout à fait remarquable. Il est président de l'Association de sculpture urbaine de Chine et également donc directeur du Namok. C'est quelqu'un qui a un rôle très important dans la sculpture en Chine.
Jean Guérard, je crois que vous avez une grande admiration pour Wu Weishan. Est-ce que vous pouvez nous en faire part ?
J'ai une réelle estime pour ce sculpteur. Il est très impressionnant. Il a une... je ne parle pas de sa nature physique. C'est un homme sympathique. On en disait tout à l'heure. Il ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait d'un Chinois. Il a plutôt un physique d'Indien, je dirais. Mais il a une carrure au point de vue sculpteur, au point de vue capacité d'expression, qui est tout à fait incroyable. Alors, c'était un grand admirateur de Rodin. Il faut comprendre que il y a en Chine une sorte de bouleversement culturel. Ils sont dans une phase très complexe où à la fois ils sont en train, je dirais un petit peu l'impression, puisque c'est le but de cette émission, c'est de nourrir une sorte de carnet d'étonnement. C'est à la fois reconsidérer le passé, se réapproprier cette identité chinoise, donc la reconsidérer, reconsidérer donc pour Wu Weishan la sculpture traditionnelle chinoise. Donc c'était une chose énorme, mais qui en même temps a un petit peu disparu, je dirais, des radars. Pendant toute la période, je dirais, maoïste, ça a été... une sculpture du réalisme socialiste qui était qui était la seule qui avait droit d'existence véritablement. Pas tout à fait, hein. Il y a plein de nuances toujours à apporter aux choses, hein. Mais l'idée c'était de rencontrer quand même la culture occidentale, et donc pour Wu Weishan c'était Rodin, et à vrai dire pour tous les sculpteurs, même ici, Rodin, c'est quand même un pilier absolument indispensable, incontournable de la statuaire. Et il s'est approprié ça et il a cette force, cette capacité d'émotion. Alors c'est vrai que c'est assez fascinant dans ce monument au désastre de Nankin, où on voit il a utilisé des photos prises par les Japonais d'ailleurs de la population massacrée, donc de scènes de douleur, des scènes effroyables, et il les a exprimées en sculpture. C'est absolument pathétique comme sculpture et c'est d'une très grande force d'expression. C'est très très émouvant. Surtout quand on va devant le musée de Nankin, à l'endroit où sont installées ces sculptures. C'est une espèce d'alignement, comme ça, comme une espèce de film, je dirais, de passage, où on voit ces êtres subir les exactions japonaises. On ne voit pas du tout les Japonais, hein. On voit uniquement des gens qui s'écroulent, des gens qui essayent de s'entraider. On voit des scènes... très bouleversante. Alors pour moi, c'est vraiment un très grand sculpteur, oui.
Alors, au-delà de sa personnalité en tant que telle, on perçoit toute la complexité de la démarche chinoise en la matière, puisque vous parlez à la fois de réappropriation de la sculpture et de l'art traditionnel chinois, après la période de la révolution culturelle, mais aussi de la capacité à se nourrir de l'histoire de l'art occidental. Comment parviennent-ils à gérer tout cela ? Didier Bernheim, vous voulez répondre à cette question ?
Oui, je voulais répondre parce que, on célèbre cette année le 100e anniversaire de l'arrivée des premiers étudiants en art chinois à l'École des Beaux-Arts à Paris. Et Jean Anguera a parlé de l'influence de Rodin, mais toute cette génération d'artistes qui est venue étudier aux Beaux-Arts à Paris, à ramener en Chine et à enseigner en Chine ce qu'ils avaient découvert justement dans leurs études en France. Donc ça, on célébrait cette année le 100e anniversaire de leur arrivée. Et Wei Shen, justement, a été l'élève d'un de ces artistes.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que même peu dans la période dite de la révolution culturelle, il y avait une génération d'artistes qui permettait la transmission, fût-ce par des canaux non officiels, ou non célébrés, non honorés, d'un savoir-faire plus traditionnel et déjà nourri de culture occidentale.
Non. La sculpture traditionnelle était mise complètement de côté. Ce qu'il s'agissait, c'était d'acquérir plutôt la culture, enfin de celle des vainqueurs, en quelque sorte. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je vois les choses. C'est un petit peu... il s'est passé un phénomène un peu analogue au Japon. De mise à l'écart de la culture traditionnelle japonaise pour accéder se nourrir et reprendre, entrer dans le jeu d'une culture occidentale.
Oui, ça je crois que c'est une caractéristique chinoise actuelle, c'est cette fin, ce désir de voir ce qui s'est passé ailleurs. C'est-à-dire que c'est un pays qui s'ouvre, qui s'ouvre depuis déjà assez longtemps, mais ils sont preneurs de tout ce qui se fait à l'extérieur, et notamment, je pense, la France a une place assez particulière, parce que on est en quelque sorte la France. Pour eux, est un pays qui n'est pas très grand, mais qui a une place presque la plus importante encore dans la culture. Donc pour eux, c'est une façon de se sentir actuel en tenant compte de ce qui se passe en France. Et ça, c'est depuis d'ailleurs un certain temps, peut-être pas depuis Rodin, mais presque. Et c'est une curiosité pour nous. Et je dois dire que maintenant, elle rencontre chez nous une curiosité de ce qu'ils sont et de la culture chinoise actuelle, qui est en pleine transformation, en plein... oui, moi j'ai vu récemment en Chine, à Pékin, une exposition de peintres qui utilisaient la technique chinoise, du pinceau de l'encre de Chine et du papier, mais pour exprimer non plus des montagnes avec des cascades, mais pour exprimer ce qui se passe dans la rue, les automobiles, les bicyclettes, les gens qui passent, et d'une manière réaliste, mais avec l'esprit qui caractérise la Chine. Voilà.
Didier Bernheim.
Oui, moi, j'ai eu une réaction tout à l'heure à ce qu'a dit Jean Guérin quand il a employé le mot vainqueur. Alors là, c'est pas du tout ça, je crois pas. C'est pas du tout dans la mentalité chinoise d'être du côté des vainqueurs. Ils ont au contraire une très grande fierté de leur civilisation et de leur culture. Non, simplement, ils sont curieux. Ils s'intéressent à cette culture qui leur est révélée maintenant. Et d'ailleurs, une des grandes interrogations qu'on rencontre constamment dans les discussions avec les artistes, c'est comment être moderne en conservant nos traditions culturelles. Ça, c'est la grande préoccupation actuelle des artistes, je pense.
Une considération ou une préoccupation universelle, non, face au rôle compresseur de la mondialisation.
Oui, je dirais, mais
conjuguer les choses.
Mais il y a un tel hiatus, si vous voulez, entre la pratique artistique chinoise traditionnelle et la pratique contemporaine que c'est un choc pour eux, hein, c'est certain.
Alors, dans le même ordre, pour entrer dans le concret, puisqu'ils sont curieux de l'art occidental, non seulement les grands maîtres du temps passé, comme Rodin, que vous avez cité, je crois qu'il y a Bourdelle aussi qui les fascine beaucoup, par rapport aux œuvres que vous avez exposées, quelle a été leur réception, quel est le retour que vous en avez reçu? Jean Guérin.
Oui, ça, c'est vrai que... Il y a eu tout de suite un public important dans cette exposition. Bon, il faut dire que l'exposition était extrêmement bien montée. Il y avait un raffinement, il y avait une qualité de présentation des œuvres. Ça, je peux en témoigner, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, sur la beauté de cette exposition. Alors c'est vrai quand on est arrivé, on a un tout petit peu dit, tiens, peut-être ce serait mieux d'écarter telle sculpture du mur, de placer. On a un tout petit peu modifié les choses, mais dans l'ensemble, c'était très très bien placé, très bien présenté. Il y avait un sens de l'espace, une très belle scénographie, comme on dit. Et très rapidement, il y a eu beaucoup de public. Presque même, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il y aura un vernissage? Est-ce qu'il n'y aura pas de vernissage? Parce que déjà, il y avait une foule qui commençait à rentrer.
Avant
l'ouverture. Oui. C'est bon, parce qu'ils n'interdisent pas, en fait,
l'accès.
Oui, absolument. Et donc, c'est vrai, Didier nous disait qu'il avait vu une jeune fille rester face à une sculpture pendant 10 minutes, qui était vraiment intéressée par les sculptures. Ça, j'ai ressenti quelque chose de tout à fait cet ordre-là. C'est-à-dire, ils sont vraiment curieux, intéressés, attentifs. C'est un public idéal, en quelque sorte, hein, je dirais. Et c'est un public qui est aussi très familial. Ça m'a fait penser un peu au public espagnol. Quand on va dans une exposition en Espagne, quand on va dans les grands salons d'art espagnol, toute la famille vient, il y a les parents, les grands-parents, il y a les petits-enfants, tout. Ça, c'est très très familial, et c'est très normal. C'est-à-dire qu'on regarde, on contemple les œuvres avec... Il y a une normalité de d'échange, de contact, de rencontre. Et il y a ça, j'ai ressenti ça en Chine, mais j'ai aussi ressenti, alors il nous est arrivé à Claude et à moi, qu'une famille chinoise s'approche pour nous demander de faire une photo avec eux. Et ils nous regardaient, moi j'avais l'impression qu'ils me regardaient comme... une chose incroyable. C'est une drôle d'impression quand même. Et en même temps, c'est extrêmement touchant.
Et vous me disiez que les académiciens ont en Chine un statut et un prestige particulier. Pouvez-vous nous décrire cela et nous l'expliquer aussi ?
Ben, je me suis demandé comment il prenait la notion d'immortel, d'académicien, d'immortel. J'ai le sentiment d'être investi d'une dimension un peu sacrée, mais je me fais certainement des idées, hein. Je suis un peu rêveur de caractère et très émotif, donc les choses je les transforme assez rapidement dans mon esprit, mais c'est vrai que leur regard, leur étonnement, leur attention était surprenant. Il me fallait quand même en donner une espèce de signification.
Oui, j'apporterai une nuance à ce que vient de dire Jean. C'est ce qu'il dit est vrai, mais je pense que quand j'ai fait connaissance à Wu Weishan, j'ai fait sa connaissance parce que quand j'étais donc à Pékin, j'avais fait un petit croquis d'une de ses œuvres et il l'avait appris. Et quand il est venu en France, il avait voulu me voir et on a parlé et j'ai eu l'impression que les artistes pour lui, chinois ou français, appartenaient un peu à une sorte de grande famille. On était tous dans la même situation. Et il m'a aussitôt proposé d'exposer à Paris avec moi. Et c'est ce qui s'est passé au Centre culturel de Chine à Paris. J'ai retrouvé ça plus tard. Les artistes se sentent un peu en dehors de la société, tout en faisant tout à fait partie, mais avec une sorte de privilège, non pas de privilège matériel, mais de privilège intellectuel. Ou en tout cas, une sorte, un peu une séparation d'avec le reste des gens. Voilà.
Et ça, vous voulez intervenir, Didier Bernheim ?
Oui, sur le public chinois. J'en suis à ma troisième grande exposition en Chine, qui demande un investissement considérable de travail. Mais c'est vraiment, ce public chinois, c'est une récompense. On a vraiment envie de recommencer parce qu'il y a un tel enthousiasme, il y a une telle curiosité, une sincérité des gens qui viennent dans ces expositions. Et c'est un vrai public populaire, comme le disait Jean tout à l'heure. Il y a des personnes de tout âge, de toutes conditions, et qui sont là vraiment avec un grand plaisir. C'est joyeux. En plus, c'est un public joyeux.
Et s'agissant des échanges avec les artistes, Claude Abeille, vous nous avez parlé d'une exposition réalisée conjointement avec Wu Weishan à Paris. Est-ce que vous avez eu un retour de la part je retombe dans les travers français de l'élitisme, d'un public plus avisé et d'artistes sur vos œuvres respectives, ce qui permettrait, par un jeu de miroir ou de dialogue, de comprendre à la fois ce qui vous rassemble et ce qui vous sépare, ce qui diverge. Ce qui est intéressant, c'est souvent la divergence.
Oui, ça c'est difficile à définir, mais bon, il est vrai que le désir d'être artiste, le désir de faire des œuvres d'art, c'est un peu spécial. C'est quelque chose qui au fond unit tous les artistes du monde entier. Il y a cette idée d'être un peu dans des préoccupations au-dessus de celles de la vie de tous les jours. Et c'est ça crée une sorte d'unité, un peu, peut-être un peu factice, et un peu, qui existe. Et ça existe. Et je sais que quand, justement, Wu Weishan a fait son exposition avec moi, il y a eu immédiatement un accord. Enfin, c'est ma femme et moi qui avions étions un peu les commissaires de l'exposition. Et Wu Weishan a tout de suite admis les emplacements que nous avions prévus, une sorte de confiance. Parce que on était en quelque sorte artiste. Il y a cette idée-là qui est au-dessus des considérations politiques et autres. C'est un peu spécial. Et c'est aussi ça qui fait le plaisir qu'on a en Chine à être avec eux.
L'impression que j'ai, c'est que la Chine, c'est le pays des discours. Hein. Il n'y a pas d'inauguration sans qu'il y ait une grande quantité de discours préalables. Parfois, alors difficile à définir exactement la teneur de ces discours. Il y a des personnages qui viennent devant le micro et qui restent extrêmement impassibles et qui débitent à propos très, très incompréhensibles, mais qui donnent vraiment l'impression d'être très officiels. C'est pas le cas de Wu Weisham, qui est très expansif, enfin qui a une nature généreuse et qui n'hésite pas à faire des gestes et des expressions du visage. En tout cas, j'ai là une photo du moment de l'inauguration de cette exposition. Étaient conviés à cette inauguration beaucoup de sculpteurs chinois. Et donc nous avons là cette photo montre la présence de tous ces sculpteurs chinois. Et alors il y en a qui sont vraiment typiques, on pourrait dire. Il y en a un qui est venu, on a l'impression qu'il est sorti directement d'une peinture chinoise. Là, un petit personnage avec une petite veste, un pantalon un petit peu tombant, une barbiche.
Le crâne dégarni.
Oui, avec un bâton un peu de saint ou de pèlerin ou d'ermite. Mais c'était particulièrement sympathique, je dois dire, cette espèce de rencontre et cette présence comme ça des sculpteurs. Moi, ça m'a paru important quand on fait le tour des images, alors après on a parlé vraiment avec eux, avec quelques interprètes. Il y a toujours une grande quantité d'interprètes, de photographes et d'interprètes. À tout événement, on est très très encadré. Et les discussions, c'était effectivement se porter essentiellement sur ce qu'ils pensaient. Je me rappelle d'un sculpteur chinois qui demandait qu'est-ce que c'était que le rond de bosse. Tu te rappelles de ça, Claude ?
Oui.
Ah oui. Qu'est-ce que c'est alors le rond de bosse ? Il avait une explication du rond de bosse. Le rond de bosse. Le rond de bosse, c'est tout simplement le volume, c'est-à-dire qu'il se distingue du relief.
Du bas-relief.
Du bas-relief, c'est-à-dire qu'on peut tourner véritablement autour de la sculpture. Et donc ça, c'est un peu la définition comme ça, globalement, du rond de bosse. Mais il y avait donné presque une dimension philosophique. Enfin, il en parlait comme si c'était une chose fondamentale dans la sculpture. Le relief, l'espace sont effectivement des choses absolument fondamentales et qui interrogent de manière indéfini, il n'y a pas de limite. De toute façon, toujours, on sera reconfronté à la notion d'espace en sculpture. Mais là, il nous demandait la définition, vraiment, notre définition du rond de bosse. On était bien embarrassés, à vrai dire. On ne savait pas très bien comment arriver à ce que vous disiez tout à l'heure. Comment nouer ce que l'on percevait de la culture chinoise, de la sculpture chinoise, et cette notion de rond de bosse. Alors moi, dans ma tête, ça faisait rond. Et ce qui se passe quand on regarde la sculpture chinoise, surtout la sculpture ancienne, c'est qu'elle est très carrée. La sculpture est toujours à base, fondamentalement, on dirait que toute sculpture est sortie d'un bloc carré. Alors, c'est... Oui, et puis la présence de la calligraphie. Et c'est assez... Alors, peut-être que la notion de rondeur et la notion de carré, c'était une chose qui les interrogeait.
Oui, sortait d'un univers... la géométrie anguleuse pour rentrer dans un univers de courbes. En tout cas, en voyant certaines des sculptures de l'un d'entre vous, ils ont dû le ressentir très, très, très fortement. Vous nous disiez que l'un de vos interlocuteurs chinois avait trouvé que votre sculpture, Jean Guerra, avait un caractère quelque peu asiatique. Pouvez-vous nous expliquer cela ?
Oui, alors, est-ce qu'elle est asiatique parce qu'elle est... C'est une sculpture qui donne le sentiment d'être en transformation, en mouvement, dans un passage. En réalité, la façon dont je fais les sculptures est quelque chose qui m'interroge. Je m'interroge sur ma propre sculpture en permanence, et cette interrogation l'a fait d'ailleurs évoluer. Donc c'est vrai qu'elle est certainement en évolution. C'est très long. Hein. Si je dois parler de ma sculpture, on y est pas encore demain. Hein. Alors, en tout cas,
demain, eux, mais poursuivez un petit peu.
Mais c'est vrai que quand j'ai sélectionné les sculptures pour cette exposition, j'ai pensé un petit peu au côté à la peinture chinoise, à ces peintures de montagnes, de rochers, de cascades, et j'ai un petit peu à la poésie chinoise, à la comment je voyais aussi la pensée chinoise, et je me suis dit, j'ai peut-être orienté mes sculptures dans ce sens-là. Je suis peut-être
le choix des sculptures.
Oui, le choix des sculptures dans ce sens-là. Mais enfin, j'avais pas beaucoup à me forcer, je dois dire.
Non, c'est terrible parce que quand on évoque d'autres civilisations, on vient toujours quand même, malgré tout, même si on veut les surmonter avec des clichés. Alors, en préparant l'émission, je me suis plongé dans quelques ouvrages de François Julien, et il avait cette observation dans une comparaison, en retour, lui dit qu'il ne fait pas du comparatisme, enfin bon, moi, à mon niveau j'en fais, d'un côté l'art occidental qui serait du côté de l'être, des choses qui sont permanentes, qu'on veut représenter de façon fixe et définitive, qui tend vers le concept, je parle bien de l'art traditionnel occidental, hein, de l'âge classique disons, et de l'autre côté, un art traditionnel chinois qui est plus dans la volonté de montrer la transformation, la transfiguration. Il citait un traité de peinture traditionnel chinois qui disait « Peindre une montagne sous le soleil, ça n'a pas d'intérêt. Peindre une montagne sous la pluie, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de peindre la montagne lorsque la pluie commence à s'effacer pour tendre vers le soleil. » Est-ce que vous avez ressenti la justesse de cette observation ou pas? Ou est-ce qu'elle est datée? Parce que l'art occidental peut-être lui-même a changé, s'est détaché de cette idée de tendre vers le concept.
C'est vrai, mais je pense que là, je parle un peu de ma sculpture, mais ma sculpture est un peu une interrogation. Chacune de mes sculptures pourrait dire qu'est-ce que la sculpture? Ou si j'étais un peu prétentieux, je me pose la question de Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et je pense que les Chinois ont cette interrogation, pourquoi l'art chinois doit-il changer? Et comment doit-il changer? Parce que l'art chinois, c'est quand même plusieurs siècles. Et est-ce que... Alors, il faut changer. Il faut changer absolument parce que le monde change et que, voilà, c'est un peu comme les Japonais, comme le disait Jean. Ils se sont posé cette question. Et je pense que ma sculpture, dans la mesure où elle a été comprise, je ne sais pas très bien, mais c'est un peu... C'est une question, voilà, ma sculpture. Et les Chinois se posent une question. Un peu comme moi, même si ce n'est pas exactement la même question. Voilà.
Au-delà de l'art, finalement, forcément en rapport avec la société, tous vos propos tendent à le démontrer. Vous le replacez dans un contexte qui est celui d'une réappropriation de son passé, d'une projection dans l'avenir, une identité d'héritage, une identité de projetée. Qu'avez-vous ressenti par ailleurs au cours de ce voyage, des doutes? Vous dites l'art chinois pose des questions, j'imagine que la société entière s'en pose aussi. Quel est votre ressenti sur cette société qui nous fascine tant, qu'on a un peu... La Chine reste mystérieuse vu de France, elle nous interroge. Là, on rentre vraiment dans le carnet d'étonnement. Hein.
Oui, enfin, alors moi je suis toujours étonné, mais je suis quand même, je crois, à mon 28e voyage en Chine. Donc, c'est plus tout à fait une découverte, bien que ce soit un monde tellement immense. On ne se rend pas compte des distances, hein, mais c'est très, très, très grand, la Chine. Moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est que je pense qu'on est très proche d'eux. Je pense qu'on se ressemble beaucoup, les Français et les Chinois. Peut-être parce que la France est aussi un pays de culture, et elle est ressentie en tout cas comme ça par les Chinois, ça c'est certain, ce qu'a dit Claude Abeille tout à l'heure est très juste. Pour eux, le pays de la culture en Occident, c'est la France. Ça, c'est évident.
Et puis, il y a des choses qui nous rapprochent, des choses triviales, la cuisine, le vin, la boisson.
Ce n'est pas trivial. Ça va avec la civilisation.
Ça va avec la civilisation. Et d'ailleurs, beaucoup, beaucoup de choses se passent à table en Chine. Les repas sont copieux. Ils doivent être abondants pour montrer qu'on reçoit bien les autres, et puis, enfin, que les autres reçoivent bien. Et c'est vrai qu'on se ressent beaucoup, je pense, mais on se sent bien ensemble. Moi, je me sens toujours très bien avec les Chinois.
Je m'excuse, mais j'aimerais faire une correction. Tout à l'heure, j'ai dit la sculpture chinoise, c'est à base du carré. Et justement, j'avais apporté une photo d'un petit Bouddha qui est au Musée national de Chine. Il y avait dans ce musée, il y avait une exposition de Wu Weishan, qui était en parallèle à la nôtre. Une exposition dans ce musée qui est absolument colossale. On pourrait, dans le hall d'entrée, on pourrait y mettre deux cathédrales de Paris, hein. Flèche comprise et tout, hein. Vraiment, c'était un truc absolument énorme. Bon, les sculptures de Weishan sont parfois de taille humaine, mais souvent de taille monumentale. Et alors, c'est une très belle sculpture avec un petit peu cette dimension rodinienne, donc de côté de choses un petit peu en mouvement, en passage. Et il y avait dans une vitrine un petit Bouddha. De quelle époque exactement? Je crois que c'était du 11e.
C'est plutôt indien.
C'est plutôt indien. Mmh. En tout cas, il était présent.
Oui.
Et alors, si lui, il est indien, donc, en tout cas, il était absolument merveilleux, d'une délicatesse incroyable. Et quand nous sommes allés à Datong, puisque nous avons fait un bref voyage à Datong, il y avait dans un temple...
Vous nous expliquez aussi ce qu'est la ville de Datong, hein,
ah, oui,
très
alors,
particulière.
Oui, alors ça, oui.
Mais on est
en tout cas, il y avait un temple... un temple qui était intact, je dirais, qui était tout à fait authentique, qui n'avait pas été modifié du tout depuis... il était du 11e au 2e siècle, à peu près. Hein. Je suis très très mauvais en date, mais je dis à peu près, c'était à peu près ça. Et il y avait, dans ce temple, à l'intérieur, il y a toujours, pour les temples tels que je les ai vus là-bas, il y a trois grandes baies. Il y a trois Bouddhas colossaux, enfin monumentaux, qui sont à l'intérieur du temple. Et dans celui-ci, il y avait les compagnons du Bouddha, je dirais, des saints, des personnages mythologiques qui accompagnent Bouddha, qui ont accompagné sa vie, son existence, et qui en donnent en quelque sorte une signification. Et ces personnages étaient absolument saisissants parce qu'ils étaient sculptés, c'est des sculptures en bois polychrome. Ils étaient sculptés comme aspirés par Bouddha. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une posture qui est complètement inhabituelle pour une sculpture, en tout cas, même pour un personnage. C'est-à-dire qu'ils étaient inclinés vers l'avant. Voilà, ils formaient une espèce de haie en direction de Bouddha. Et plus les sculptures approchaient de Bouddha, plus elles s'inclinaient. Mais elles s'inclinaient, c'est-à-dire qu'elles restaient dans une, je dirais...
Une posture hiératique.
Oui, c'était... destinées à être verticales et en même temps n'étaient pas verticales, elles étaient véritablement dans une inclination, comme s'ils allaient tomber en somme.
Oui, c'est ça, ils ne sont pas voûtés dans une attitude de déférence, mais ils sont aimantés.
Aimantés, absolument. Et donc ça, ben évidemment quand on voit ça, on dit ben, je ne peux pas avoir vraiment d'idée définie et arrêtée de ce qu'est la sculpture chinoise. Donc c'est pour ça que je voulais amener ce correctif.
Alors c'est intéressant, dans cette réappropriation du passé, est-ce que, on a parlé de la démarche des artistes chinois contemporains, au sens artistes d'aujourd'hui, quelle est la place du versant patrimonial de cette réappropriation? Elle est importante, vous l'avez ressentie, ou elle est secondaire?
Il faut quand même rectifier.
Didier Bernheim.
Oui, pardon. Il y a quand même, incontestablement, et c'est connu, enfin on le connaît en Europe, un mouvement... d'art contemporain en Chine, qui est
un peu la copie de l'art contemporain occidental. C'est ça, ce mouvement existe et plutôt tendance à vouloir s'émanciper de l'art classique chinois. Mais à côté de ça, il y a un grand nombre d'artistes qui sont plutôt dans le rejet de l'Occident, en fin de compte. Hein. C'est-à-dire de dire... On a notre propre personnalité. Il faut que la création se fasse sans perdre notre personnalité. Et ça, c'est une préoccupation qu'on rencontre très, très fréquemment chez les artistes chinois.
Claude Abbaye, vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet ?
Oui, bien sûr. Il existe un art dit contemporain en Chine, mais qui est évidemment lié plutôt au commerce, plutôt qu'au désir d'une œuvre d'art. Ça existe, bien sûr, comme dans le monde entier. Donc... Ça, c'est certain. Moi, j'ai connu un peintre japonais qui avait plusieurs cordes à son arc, si je peux dire. Il avait un certain nombre de peintures qui étaient destinées aux États-Unis, enfin, d'autres peintures destinées à l'Australie, d'autres peintures destinées au Mexique. Enfin bref, il avait tout un panel et c'était... C'était simplement du simple commerce. Donc là, ce dont nous parlons pour cette exposition, non, c'est autre chose. Il y a un désir de... Enfin, oui, qu'est-ce que l'art ? Et l'art, il y a un art chinois qui a toujours existé, mais qui doit se modifier de façon tout à fait naturelle, et quitte à être influencé, en effet... par l'art français ou enfin la sculpture occidentale, mais inversement, nous pouvons aussi nous être influencés par ce que nous voyons en Chine. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique de l'art occidental et d'être influencé par l'art du monde entier. Mais qu'il reprend, je pense par exemple à l'art nègre, hein, qui nous a beaucoup influencé, mais aussi les chinoiseries du XVIIIe siècle, etc. Enfin bon. Et donc c'est un contact qui avait été perdu parce que la Chine s'est repliée sur elle-même pendant longtemps, et donc maintenant c'est un retour à la conversation en quelque sorte. Voilà.
Alors quand je vous entends parler, ça semble être une sorte de rêve, parce qu'on serait face à des gens qui cultivent leur identité, mais en évitant l'écueil de la reproduction, du mimétisme par rapport au passé, de la reproduction infinie des formes précédentes, et même du, quelque sorte, du kitsch. Est-ce que c'est bien le cas ?
C'est
Didier Bernheim.
Je pense qu'il y a une véritable interrogation à ce sujet des artistes chinois. C'est à la fois, bon, chez les jeunes, la tentation de l'art contemporain, qui est tout à fait compréhensible, et puis qui fait partie de leur apprentissage et de leur éducation, mais aussi c'est vraiment cette question de ne pas perdre son identité, elle est constante et très présente chez les artistes. Moi, je la retrouve dans tous les colloques auxquels je participe, c'est une question qui revient en permanence. Alors, des fois, de façon très conservatrice, qu'on peut imaginer, mais il y a eu récemment, on peut parler ici d'une émission de télévision qui était à Arte, je crois, qui s'appelle Chine, 1 million d'artistes, ou, je pense que c'est ça le titre. C'est très intéressant, parce que c'était justement des artistes qui sont plutôt considérés comme des artistes contemporains, qui expliquaient très de façon très philosophique d'ailleurs difficulté avec justement ce le monde du marché, par exemple.
C'est-à-dire, quelles sont leurs difficultés ? Parce qu'on voit aussi les Chinois comme un peuple de commerçants, qui n'a pas de problème avec...
Alors ça existe. Ce que vous a dit Claude Abbaye, moi je le connais aussi. Des gens qui ont dit, bah, tiens, ça marche, je vais faire ça. Mais ce n'est pas des artistes.
Mais par contre, des gens justement qui s'exprimaient dans des artistes très réputés et très chers sur le monde, sur le marché, qui s'exprimaient dans cette émission, au fond, exprimaient une certaine forme de dépossession de leur œuvre par le marché. Et une interrogation sur leur place dans ce marché, parce que c'est au fond leur objectif, c'était pas d'être dans le marché, c'était d'être des artistes. Et je trouve, tout en étant vraiment, on peut dire, contemporain dans leur expression. Hein. Donc c'est au fond, c'est un ce qu'on ressent, c'est la confrontation de deux mondes en fin de compte. Hein. Un monde ancien qui explose dans la modernité à l'heure actuelle est confronté finalement peut-être à un monde beaucoup moins cultivé mais qui domine le marché.
Oui, Jean Guérin, vous voulez rajouter quelque chose ?
Eh bien, la sculpture, l'art chinois, il y a aussi une chose, c'est vrai que très souvent on a à l'esprit la peinture chinoise, c'est-à-dire les rouleaux avec ces paysages, soit en cascade, soit des espèces de vues comme ça, de transformation d'un paysage. Mais dans le domaine de la sculpture, ce que l'on voit, c'est qu'ils ont une capacité, et même on le voit dans l'architecture, au monumental. C'est-à-dire, ils ont une capacité à faire du très grand. Ça, c'est assez impressionnant et il n'y a pas d'équivalent en Europe dans cette monumentalité. Alors, précisément pour en revenir au voyage à Datong, l'objectif, c'était d'aller visiter les Bouddhas qui sont dans la montagne. Et ce sont des sculptures absolument spectaculaires, gigantesques, parce que c'est un art aussi, c'est un art religieux. Quand même, il y a aussi l'art traditionnel, l'art classique chinois, il y a une dimension religieuse qui est quand même très importante. Comme nous, chez nous, il y a eu aussi cette dimension religieuse. Ça, je ne sais pas ce qu'ils font exactement avec cette dimension religieuse, mais c'est une remise en cause aussi très, très profonde des choses. En tout cas, quand on va à Datong, moi, je pensais que ces Bouddhas étaient sculptés en façade sur les montagnes, sur les falaises. Et en réalité, ils étaient sculptés à l'intérieur de la montagne. C'est-à-dire qu'ils perçaient un trou à une certaine hauteur. Ils avaient accès à une certaine distance comment dirais-je, quand ils avaient creusé une galerie assez longue, ils commençaient à réaliser le visage du Bouddha. Donc ils commençaient, je ne sais pas, peut-être par les yeux, je n'en sais rien, en tout cas, à sculpter la tête du Bouddha, donc à creuser tout autour la montagne pour réaliser la tête. Et puis, cette tête faisait à peu près 3 mètres de haut, hein, pour donner à peu près les dimensions. Alors, sur les parois extérieures, ils sculptaient des scènes en bas-relief, avec des personnages et tout ça. Et puis, ils descendaient, et quand ils arrivaient au pied du Bouddha, il faisait un trou, une galerie pour sortir. Et donc, ce que l'on voit de temps en temps, c'est quand on s'éloigne de la falaise, on voit à travers la galerie du haut, on voit le visage du Bouddha. Il est comme s'il nous regardait. C'est très étonnant. Et alors, il est défendu de faire des photos. Quand on rentre là-dedans, et à la limite, c'est très compréhensible parce que ce sont des œuvres extrêmement fragiles malgré leur monumentalité.
Ils sont polychromes.
Et c'est pas seulement les photos qu'il faut faire, c'est ne pas, ne pas les abîmer, ne pas les toucher presque, parce que c'est du sable, hein, c'est des sculptures en grès, c'est du sable du type sable de Fontainebleau, c'est comme si on les faisait dans des pierres de la forêt de Fontainebleau. Donc c'est quand même, c'est à la fois très dur et très fragile. Hein. Il y a cette double... Mais de temps en temps, la falaise s'écroule, il y a des écroulements sans cesse, la falaise s'écroule et le Bouddha sort dehors. Il apparaît. Et alors, là, on le voit en entier, là, du coup. Parce que quand on rentre dans cette galerie et qu'on arrive au pied du Bouddha,
il n'y a pas de recul nécessaire.
C'est très curieux, ça. Hein. Donc, mais alors, cette sculpture monumentale Mais on la retrouve partout. Il y a une capacité à créer du monumental en Chine. Et ça, c'est une particularité. Ils peuvent faire absolument des choses immenses. Creuser une montagne, Wu Weishan, il a fait une sculpture qui est... On rentre dedans, elle est, c'est une montagne. Ouais. C'est grand comme une montagne.
Je veux dire que j'ai visité, plus que visité d'ailleurs, j'ai un peu travaillé avec une fonderie qui se trouve dans le Shaanxi, où justement la sculpture du général de Gaulle a été fondue pour le musée national de Pékin. J'ai vu des moules qui faisaient 30 mètres de long. Des moules de sculpture qui faisaient 30 mètres de long. J'ai des photos où... justement, un monument de Wu Weishan, je pense, dans la fonderie, fait une vingtaine de mètres de haut, dans la fonderie, hein, en un seul morceau. Bon. Ça, c'est quand même exceptionnel.
Oui, non, mais c'est... Ça, de toute façon, les Chinois et le bronze, ça, ils savent faire, quoi. On pourrait presque dire que c'est une civilisation du bronze. Je ne sais pas si c'est eux qui l'ont inventé. On pense plutôt que c'est pas loin de la Chine, mais les Chinois, ça, ils ont un sentiment du bronze qui a accompagné toute leur culture, bien sûr.
Alors, on a parlé des musées et de l'appétence du public chinois pour les expositions et la vôtre en particulier. Lorsqu'on met l'art dans les musées, ça correspond aussi à une étape. Est-ce que l'art continue à être dans la société, dans la rue, et à infuser totalement, ou c'est devenu quelque chose d'institutionnel? Parce que, comme on parlait d'identité, de mouvement identitaire, ça pourrait être comme quelque chose que l'on conserve, mais un peu sous cloche. C'est pas le cas.
Non, partout, il y a des parcs de sculptures qui se créent. D'ailleurs, Claude Abeille a récemment eu une sculpture installée à Dalian, sur un front de mer. La sculpture fait partie de la cité et elle est très, très vivante en Chine. Très vivante.
Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais quand on a fait cette exposition, je ne sais pas si on l'a dit, en tout cas, il y avait une volonté aussi, on offrait à la Chine les sculptures de l'exposition, c'est-à-dire pas les sculptures en elles-mêmes, mais le droit de tirage d'un exemplaire pour... le futur musée qu'ils allaient construire, puisque ils vont bientôt réaliser, ils sont en passe de réaliser un très grand musée dont l'architecte sera Jean Nouvel. Enfin, il en a fait le projet. Et donc, ils vont... ça va augmenter là, leur collection. Oui,
ce n'est pas un coup sans lendemain, c'est quelque chose qui est amené à perdurer. Les échanges vont se poursuivre. Par la présence de vos œuvres à tous les cinq, je m'adresse aussi à ceux qui ne sont pas présents, dans les collections des musées chinois, et avec d'ores et déjà une volonté de les exposer régulièrement.
Tout à fait, oui.
Je voulais aussi un peu évoquer, à l'occasion de ce voyage à Datong, la rencontre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait une rencontre. J'ai le sentiment d'avoir fait une rencontre. Il se fait que nous avions là-bas une femme qui s'appelait Shangshan, ou Fangfang plutôt. Et cette femme était là pour nous expliquer la ville, nous faire visiter cette grande allée de Bouddha, de sculpture de Bouddha dans la montagne, et nous a expliqué le bouddhisme, tout ça, de manière... Mais alors, c'était une femme absolument admirable, absolument sympathique. Elle m'a absolument profondément touché par son humanité, sa capacité à nous comprendre et à la capacité qu'on a eue d'échanger avec elle, de nous expliquer le monde chinois, de nous expliquer la Chine de manière très immédiate, très naturelle, très présente. Là, je vous explique la Chine, je vous montre le Bouddha et je vous explique ce que l'on pense, comment on le perçoit, comment on le vit, comment le vivent les gens. Cette personne m'a absolument bouleversé d'humanité, en somme. Et souvent, ce qui se passe avec les Chinois, quel qu'ils soient dans la rue, ceux qu'on rencontre, ils sont 1,5 milliard, hein, mais on en rencontre dans un voyage, moi j'en ai peut-être rencontré, vu, aperçu dans les rues, 300 en tout, hein, donc je ne peux pas parler des Chinois, mais quand même cette humanité est tout à fait présente et bouleversante, et je crois que peut-être que quand ils viennent ici, ils disent la même chose de nous. Je ne sais pas du tout comment ils nous perçoivent. Ce serait intéressant de le savoir. En tout cas, y a quelque chose de tout à fait spectaculaire et bouleversant. Voilà, je voulais parler de cette personne parce qu'elle m'avait... elle a été importante pour moi. Elle a changé un peu mon regard, quand même.
Eh bien, écoutez, je suis très heureux que vous concluiez cette émission par cette remarque, car c'est une invitation effectivement à incarner les choses, à se souvenir que derrière tous les grands discours, il y a des êtres humains qui valent la peine d'être connus. C'est aussi certainement le rôle de l'art et des échanges culturels que d'arriver à cela. Mais si on peut tous y arriver, y compris lorsque nous ne sommes pas artistes, à percer l'armure des préjugés et établir des contacts, eh bien, il faut le faire. Et donc concluons cette émission par cette injonction sous-jacente à bien accueillir les Chinois lorsqu'ils visitent la France, de façon à ce qu'ils puissent revenir avec des souvenirs bien tels sûr. que les vôtres. Voilà, je suis certain qu'à l'Académie, ils sont très très bien accueillis.
Tout à fait. Mais... ils viennent avec beaucoup de plaisir et on les reçoit, nous aussi, avec beaucoup de plaisir.
Messieurs, merci beaucoup. Comme c'est un carnet d'étonnement, peut-être chacun d'entre vous, Claude Abeille, Didier Vernem, voulez-vous rajouter quelque chose en guise de conclusion également?
Sinon... non, je pense que tout a été dit très bien.
Merci beaucoup à tous de nous avoir fait partager vos carnets d'impressions et d'étonnement. Il n'y a aucun doute sur le fait que les portes du studio vous sont ouvertes pour vous parler de la suite de ces échanges, puisque tout ça est appelé à perdurer. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.